Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Là où elle peut avoir lieu, elle doit avoir lieu. La réouverture des écoles est essentielle. Édouard Philippe l'a rappelé hier. Le Premier ministre qui redoute un décrochage des élèves les plus en difficulté après quasiment 2 mois d'absence. Emmanuel Macron sera tout à l'heure à Poissy, en région parisienne. Il visitera une école et fera le point sur la préparation du déconfinement. Bien difficile à mettre en œuvre. Et pour les enseignants et pour les élus. Certains ont d'ailleurs tranché, il n'y aura pas d'école la semaine prochaine. Chez lui, à Ribécourt, dans l'Oise, monsieur le maire a pris la décision. Les normes imposées sont tout simplement inapplicables.
Déjà, il faut recalculer la surface des classes, puisqu'il faut 4 mètres carrés pour un enfant, plus l'enseignant, plus nous, on a regardé, si on veut accompagner les enfants pour aller aux toilettes, nettoyer à chaque fois, nettoyer ce qu'ils utilisent, il faut que je mette à disposition au moins 2 personnes par classe. Le cas scolaire, je vais le désinfecter, les petits bouts de choux, vous êtes obligé de les aider pour les mettre dans le cas. Donc il faut qu'on touche, on n'a pas le droit de les déshabiller. Non mais attendez, ils sont sur le terrain ces gens-là? Il n'y aura pas d'école avant la rentrée de septembre. S'ils veulent revenir dessus, que ce soit l'académie ou les services de l'État, ils mettent le personnel en place. Moi, je ne mets pas le mien.
Jean-Guy Létoffet, le maire communiste de Ribécourt-Drélincourt dans l'Oise, joint pour RTL par Émilie Beaujard.
Le maire de Poissy nous disait exactement l'inverse il y a à peu près une demi-heure sur notre antenne. Alors, 5 mois sans école, est-ce que c'est une bombe à retardement? Nous en débattrons à 8h20 avec Yanis Roder, qui est professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès.
Cette annonce à présent qui va certainement réjouir et à coup sûr soulager des dizaines de milliers de petits patrons, de commerçants. Le gouvernement s'apprête à annuler purement et simplement les charges théoriquement dues depuis le début du confinement. C'est le journal Les Échos qui l'annonce ce matin. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Cela concerne en fait tous les commerces qui sont fermés depuis bientôt 2 mois et qui, pour certains, risquent de le rester encore au-delà du 11 mai.
Oui, alors typiquement, parmi les bénéficiaires, vous avez les coiffeurs, les fleuristes, les pressings, tous ces commerces qui ont baissé le rideau depuis le 16 mars. Ils avaient déjà obtenu un report des charges, URSSAF, charges patronales sur les salaires, TVA, etc. En mars, les cotisations pour tout le commerce non alimentaire avaient représenté près de 2,5 milliards d'euros. C'est à peu près le montant qui est effacé avec cette annonce. L'aide cible vraiment les petits commerces qui n'avaient pas le droit d'ouvrir par décision de l'État. Donc ça exclut les supérettes, les supermarchés. Et en limitant ce geste aux entreprises de moins de 10 salariés, on exclut aussi toutes les grosses entreprises qui ont des centaines d'employés. On avait compris que l'hôtellerie, restauration et la culture, cinéma, théâtre, salle de spectacle allaient bénéficier d'une aide de ce type parce qu'ils ne pourront pas rouvrir lundi prochain. Mais le geste annoncé aujourd'hui va bien au-delà et concerne environ 400 000 entreprises. Ça fait des semaines que l'UDP et la CPME militent pour une décision de ce type en partant du fait qu'il ne doit pas y avoir de charges s'il n'y a pas d'activité. Le report qui avait été décidé jusqu'ici était en fait une bombe à retardement parce que ces petites entreprises ont souvent des trésoreries très fragiles.
Merci pour ces explications, Martial Liu. Pas de chômage partiel pour Amazon France. Le groupe l'avait réclamé pourtant pour ses 10 000 salariés après l'arrêt de ses activités, non pas par manque de commandes, mais sur décision de justice, faute de conditions sanitaires suffisantes. Le chômage partiel n'est pas prévu pour ce cas de figure, a répondu le ministère du Travail. Le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe n'aura pas convaincu les sénateurs hier. Il a été rejeté 87 voix contre 81, avec une abstention massive des Républicains majoritaires au Sénat. Vote symbolique sans conséquence sur le déconfinement qui doit démarrer lundi prochain. Une séance qui aura eu, en tout cas, le mérite de nous gratifier de quelques interventions bien senties. Je vous propose de réécouter celle de Claude Malhuret, sénateur de l'Allier, accessoirement médecin et qui sait donc de quoi il parle, contrairement à d'autres qu'il n'a pas manqué d'épingler. Écoutez-le.
J'ai découvert un théorème que je vous propose. Plus il y a d'experts, moins on comprend. Heureusement, il reste les politiques. J'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale mercredi dernier, monsieur le Premier ministre. Il y a là-bas des virtuoses du coronavirus. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor, il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. J'étais au bord du retweet. Devant tant de recommandations de spécialistes, je n'ose pas vous proposer les miennes, moi qui ne suis qu'un simple médecin épidémiologiste.
Claude Malhuret, voilà une rhétorique dont il a le secret. C'était hier, lors du vote au Sénat.
On est au bord du retweet. Il est 8h04 sur RTL. C'est un objet volant, désormais bien identifié. Les drones se multiplient et il va falloir s'y habituer.
Oui, vous en verrez peut-être survoler les plages cet été, si nous avons la chance de pouvoir y aller, bien sûr. Oui. La police s'en est largement dotée et ça ne plaît pas à tout le monde. La Ligue des droits de l'homme juge cette pratique liberticide et illégale. Elle vient de déposer un recours. La police précise qu'aucune image n'est conservée. Rappelez-nous, Guillaume Chiez, à quoi servent ces nouveaux outils devenus quasi indispensables?
Eh bien, ces drones ont une double mission préventive et répressive. Côté prévention, ils permettent de diffuser des messages sur haut-parleurs, des rappels de consignes de sécurité, l'interdiction de sortir sans dérogation ou la distance à respecter, par exemple, à l'entrée d'un centre commercial très fréquenté. Avec leur portée de 40 mètres, ces haut-parleurs permettent de toucher un public large. Côté répression, les drones viennent en appui des policiers et des gendarmes sur le terrain. Ils permettent de filmer en temps réel des zones difficiles d'accès, ont été notamment employés dans des cités sensibles. Là, le but, c'est d'identifier de potentiels contrevenants au confinement pour ensuite les sanctionner. Les images filmées par les drones ne sont jamais conservées. Elles ne peuvent donc pas servir de preuve pour plus tard. Le mois dernier, la police nationale a effectué 535 vols de drones, la moitié du temps pour diffuser des informations, l'autre pour sanctionner.
Guillaume Chiez, 123 patients en moins dans les services de réanimation ces dernières 24 heures. La pression continue de baisser, mais très doucement. La France a enregistré hier 306 nouveaux décès liés au Covid-19. Partons dans le Nord à présent, à la rencontre d'un médecin qui a décidé de ne pas attendre le 11 mai pour dépister massivement ses patients. Si le gouvernement ne teste actuellement que les personnes présentant des symptômes, lui donne le choix à tous ses patients et propose un dépistage quasi automatique. Reportage de Franck Hanson.
Au cabinet médical, au pied des tours du quartier, les patients ne rentrent qu'au compte-gouttes. À chaque consultation, le docteur Bertrand Legrand propose systématiquement ses tests Covid, quelques minutes seulement, en prenant des précautions drastiques.
C'est un acte technique qui est simple, qui est à la portée de n'importe quel médecin généraliste. Une surblouse, un casque, un masque dans des conditions de prélèvement qui soient correctes et non pas dans une voiture à bout de bras.
Le dépistage moins ciblé serait plus efficace selon le praticien tourquenois qui ne surfacture rien.
Quand on veut faire 500 000 tests par semaine, on ne teste pas que les symptomatiques. On va avoir 8 jours de retard sur chaque cas qu'on va dépister. Si on fait un dépistage de masse, on va trouver des gens qui ont le Covid. Non, c'est une mauvaise solution que la solution proposée par le gouvernement. On a déjà vécu l'expérience au moment de la grippe H1N1 et c'est quand on a commencé à vacciner en médecine générale que le taux est remonté.
Les patients, eux, se sentent davantage sécurisés.
Quand on va à l'hôpital, il ne veut pas faire de tests. Alors, si notre médecin il fait des tests, je trouve que c'est efficace. C'est plus rassurant, oui.
Je suis venu que pour ça. Ça fait peur. C'est mieux de venir chez le médecin que d'aller à l'hôpital parce qu'il y a trop de morts. Le résultat dans 48 heures.
Un généraliste pas forcément bien compris par certains de ses confrères.
Franck Hanson pour RTL. L'intégralité des 7700 bureaux de poste seront ouverts d'ici la fin du mois. C'est en tout cas l'engagement pris il y a quelques minutes sur RTL par le PDG de la Poste, Philippe Val.
Il n'y a pas d'âge pour se mobiliser contre le virus. À 12 ans, Evan, jeune collégienne, vient de créer son entreprise de masques.
Une toute jeune patronne privée d'école et qui s'est découvert un don pour la couture. Ça tombe bien, le pays a besoin de main-d'œuvre. Samuel Goldschmidt l'a rencontrée chez elle, dans le Doubs, près de Montbéliard.
Bonjour, je m'appelle Evan Vermeer, j'ai 12 ans et je suis chef d'entreprise.
Ces statuts ont été déposés en bonne et due forme. La maman d'Evan a prêté son nom, mais la patronne, c'est bien elle.
À la base, c'était pour des produits ménagers naturels solides. Mais du coup, au début du confinement, je me suis mise à faire des masques. J'ai vu la détresse des gens qui étaient en contact avec les autres. Et du coup, je me suis mise à ma machine à coudre. À la base, c'était pour les infirmières et puis les caissières. Et puis, je me suis mise à faire pour les facteurs, pour les livreurs et puis même tous les gens qui en voulaient.
Elle arrive à s'approvisionner en tissu et en cette nouvelle denrée rare qu'est l'élastique. Et à maîtriser toute seule la machine à coudre.
J'en avais fait 160, puis je voulais faire une pause dans les commandes. Et sauf que, il y a beaucoup de gens qui m'en ont demandé, du coup j'ai repris et là j'en ai déjà au moins 30 à faire.
Sauf que l'école, à distance, a repris.
Oui, alors du coup, je vais m'imiter à peu près 5 par jour pour quand même pouvoir faire mes devoirs et mes visioconférences.
Plusieurs prototypes ont été perfectionnés pour équiper d'abord toute la famille.
Moi j'aime beaucoup. On sort pas beaucoup en plus, donc nous pour l'instant le tissu ça nous suffit, mais c'est agréable à porter, moi j'aime bien.
Ce sont des masques grand public réalisé d'après les patrons de l'AFNOR et vendu au prix de 5 euros, la jeune patronne de la marque Vert Durable continuera tant que ses devoirs lui en laisseront le temps.
Ah, c'est quand même l'élève modèle.
Elle est formidable, cette
école. École la journée, couture le soir. Et puis nous sommes le 5 mai. Le 5 mai, c'est le jour d'un triste anniversaire pour tous les amoureux du football. Il y a 28 ans, en 1992, la tribune nord du stade de Furiani s'effondrait. Bilan terrible, 19 morts, plus de 2300 blessés. Et on a forcément ce matin une pensée pour la famille de Jean-Baptiste Dumas qui suivait ce match ce soir-là pour RTL et qui est décédé des suites douloureuses de cette catastrophe.
C'était le...